RCF.
Et la soirée se poursuit avec le 18-19 régional que nous retrouvons tout de suite. Jean-Pierre Benoît, Alexis Claudretz.
Bonsoir à toutes et à tous, 18h10 ce jeudi soir, on est très heureux de vous retrouver avec celui qui est fin prêt dans les starting blocks, Jean-Pierre Benoît, bonjour.
Bonjour Alexis.
Vous allez bien Jean-Pierre, vous me paraissez en pleine
très,
forme.
Très très bien, très très calme.
Très calme, exactement. Mélissa Tavares était là avec nous aussi, Mélissa bonsoir.
Bonsoir.
Avec une nouvelle page météo et une nouvelle page de pluie.
Exactement.
Il y a eu du vent.
Vous savez qu'on a l'alerte orange, Jean-Pierre, dans la Marne et les Ardennes à cause de la tempête Louis.
Absolument.
Donc pour les auditeurs qui nous écoutent, s'ils prennent les rafales là sur l'autoroute, sur la 34, eh bien faites très attention, soyez prudents et ne prenez la route que si nécessaire, bien évidemment. Nous serons dans quelques secondes avec Gérard-Marie Henry qui est à l'autre bout du fil par téléphone pour nous parler de la croissance de la France en 2024. Aura-t-il de bonnes nouvelles à nous annoncer ? Pas sûr que le temps soit ensoleillé de ce côté-là non plus. Guy Lecomte est maire de Corroy-lès-Hermonville, il sera à votre micro, Jean-Pierre, et puis vous nous proposerez d'autres rencontres en deuxième partie d'émission.
Absolument, Guy Lecomte, maire de Corroy-lès-Hermonville, et puis Marc Besancenet, il est le directeur du lycée Saint-Jean 23 de Reims. Il nous reparlera de l'opération Kilimandjaro. Nous avons tous à gravir une montagne, et puis on le retrouvera pour les différentes activités du lycée Jean 23.
Ce jeudi 22 février est une journée un petit peu spéciale, c'est la journée internationale du scoutisme, ça sera l'occasion d'en parler avec Noéline qui est cheftaine Jeannette au groupe Chalon des scouts unitaires de France à l'occasion de cette journée assez exceptionnelle. D'ailleurs, depuis 18h, une messe
est en
cours à la cathédrale de Reims.
En ce moment même, à la cathédrale, Monseigneur Véteux vient de nous en parler. Il est présent sur place, le père Bruno Ayet, puis peut-être même Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, ça je ne peux pas vous confirmer, mais c'est vrai que c'est un rassemblement important à la cathédrale avec les différents types de scouts qui existent.
Et d'autres prêtres seront avec nous, notamment pour évoquer le carême, le père Arnaud Duic de l'espace missionnaire Montagne Val d'Or pour le diocèse de Reims et des Ardennes nous rejoindra en deuxième partie d'émission. Voilà pour le sommaire de ce 18-19 en Champagne-Ardenne ce jeudi soir, Jean-Pierre.
Alors bien, on a vu la météo, parapluie bourrasque, mais je crois qu'on retrouve Alexis, nos chroniqueurs, on va vous retrouver tout de suite d'ailleurs.
Effectivement, avec Gérard-Marie Henry pour des prévisions économiques. Gérard-Marie, bonjour.
Bonjour à tous.
Gérard-Marie, est-ce que les prévisions de croissance pour 2024 pour la France sont ensoleillées ?
Pas beaucoup, pas beaucoup en fait. Donc vous savez qu'il y a quelques jours, le gouvernement français a abaissé les perspectives. Bon, il y avait déjà plein d'organismes comme l'OCDE, l'INSEE, la Commission européenne qui avait dit la France ne fera pas une croissance très forte cette année. Et donc là, le gouvernement reconnaît qu'effectivement, les objectifs qu'il avait ne seront pas atteints. Et bon, c'est pas très grave, puisqu'on va quand même avoir une croissance légèrement positive. Donc c'est pas la récession, il n'y aura pas vraiment d'augmentation brutale du chômage, etc. C'est pas la catastrophe, vraiment. Mais c'est quand même assez embêtant, parce que avec une croissance faible, il y a moins de recettes fiscales, il y a moins de TVA, il y a moins d'impôts sur le revenu, etc. Et la situation budgétaire française est inquiétante. On a un très fort déficit, un déficit qui est proche de 5% du PIB. C'est après l'Espagne et l'Italie le plus gros déficit des pays de l'Union européenne. Et là, s'il y a ralentissement de la croissance, ce déficit, il ne va pas réduire, au contraire, il va augmenter. Et c'est pour ça que le gouvernement vient de décider, et ça c'est assez important, de réduire les dépenses, d'essayer de rogner un petit peu sur un certain nombre de ministères pour que l'équilibre budgétaire ne soit pas trop dégradé. Et donc il a annoncé qu'il allait faire des coupes à hauteur de 10 milliards d'euros. Alors 10 milliards d'euros, c'est bien sûr beaucoup hein, pour nous, mais en fait ça ne représente que 2% en fait des dépenses du gouvernement. C'est à peu près 450 milliards d'euros ce que le gouvernement a récupéré par les impôts et qu'il remet dans le système à sa guise. Et donc là, on a 10 milliards de moins. Et les journalistes ont insisté beaucoup sur le fait que c'était des coupes qui allaient toucher les mesures écologiques. Hein. On a un poste qui s'appelle Écologie, Développement, Mobilité Durable. Et lui, il va perdre plus de 2 milliards d'euros. Alors moi, ça m'inquiète pas trop. Ce qui m'inquiète plus, c'est que le budget de l'enseignement supérieur, Donc ce qui est octroyé aux universités, aux grandes écoles, va presque perdre 1 milliard d'euros. Et ça, pour l'avenir, c'est pas forcément bon. Mais il faut faire ces efforts de réduction de dépenses. La France est un pays, le gouvernement français est très dépensier. Ça a des intérêts positifs, ça soutient la croissance un peu. Mais là, on a une croissance qui un petit peu s'effiloche. Et donc, il faut essayer de réduire le niveau des dépenses. Et c'est ce que propose de faire le gouvernement.
Gérard-Marie Henry, vous nous présentez cet exemple, vous nous parlez de réduire les dépenses. Rassurez-nous, parmi les annonces, on nous a pas dit que les impôts allaient encore une nouvelle fois augmenter ou que nos cotisations allaient devoir augmenter ou ce genre de choses.
Non, le ministre de l'économie a été très clair, hein, on ne touche pas aux impôts et on n'aura pas de réduction des paiements de sécurité sociale. Donc on ne touche pas à la protection sociale d'un côté, donc les dépenses qui vont vers la Sécu pour couvrir ce qu'on ne dépense pas nous-mêmes, et d'autre part, pas d'augmentation d'impôts. Mais c'est pour l'année 2024, on va voir si cette croissance continue à s'effilocher, si les contraintes budgétaires demeurent, est-ce que le gouvernement ne va pas être obligé effectivement de faire quelques hausses d'impôts. Bon, des hausses plus visibles que celles qu'il a réalisées avec les tarifs, etc. Donc là, vraiment des choses qui porteraient atteinte à notre portefeuille. Mais là, on n'en est pas encore là. Bruno Le Maire a bien démenti qu'il n'y aurait pas de modification de la base fiscale, que ce soit la TVA, que ce soit l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, tout ça va rester stable. Mais on a des coupes dans des budgets. On a également le ministère du Travail, celui de Madame Vautrin, perd plus d'un milliard d'euros, va perdre plus d'un milliard d'euros. Alors encore une fois, est-ce que c'est grave? Est-ce que ça va faire moins d'emplois? J'y crois pas. Mais c'est quand même un petit peu inquiétant d'être obligé de toucher des ministères qui sont significatifs pour l'équilibre de la société, donc l'enseignement, le travail, etc.
Et est-ce que tout cela, Gérard-Marie Henry, est compatible aussi avec l'objectif de réduire le déficit public? Parce qu'on le rappelle, c'est un des objectifs fixés, revenir à 4,4% du PIB en 2024, ce déficit public.
On ne va pas l'atteindre de la même façon qu'on ne l'atteindrait pas. Normalement, on devrait, comme pays de l'Union européenne, et en plus pays de la zone euro, avoir un déficit qui ne dépasse pas 3%. Donc on a des pays voisins, je pense aux Pays-Bas, à l'Allemagne, qui ont des excédents budgétaires, qui se débrouillent, même avec une croissance faible, pour pas dépenser trop. Nous, on a un déficit énorme, hein, 4,8 en ce moment, on veut redescendre à 4,4, on n'y arrivera pas. Et évidemment, l'objectif de 3% en 2027 me paraît bien difficile à atteindre, sauf s'il y avait des changements radicaux dans l'utilisation des dépenses de l'État. Mais ça pourrait faire des gilets jaunes et des choses comme ça. Donc on repousse le ballon en se disant, bon, la dette augmente, le déficit est là, mais c'est pas très grave, je passe à mon voisin. En 2027, il y aura un autre président et il se débrouillera sans doute mieux.
Alors l'objectif 2024 avec ce déficit public à 4,4% du PIB, ça vous paraît compliqué? Est-ce que le cap 2027 tombé en dessous des 3% de déficit budgétaire, ça vous paraît accessible sur le plus long terme ou pas du tout?
Il faudrait qu'il y ait vraiment une reprise forte de la croissance et pour l'instant, il n'y a pas vraiment de signal qui montre ça. Le moral des ménages est toujours très bas. Les chefs d'entreprise commencent à douter, enfin ils avaient le moral assez bon et maintenant ils doutent, et on n'a pas un environnement international qui soit très favorable, nos voisins ralentissent aussi, alors c'est important d'avoir des partenaires qui achètent, s'ils vont pas bien ils achètent moins, donc tout ça ne crée pas une ambiance favorable pour la reprise de la croissance française. Si on a cette reprise, effectivement l'objectif avec un petit peu d'efforts budgétaires, de compression, de coûts, etc. pourrait être atteint, mais si on n'a pas la croissance, ça ne va pas être possible et on va se faire un petit peu attraper par la Commission européenne. Enfin, on a l'habitude, hein. Elle nous montre du doigt en disant « vous n'êtes pas beau, vous faites partie du Club Med, vous faites comme les Espagnols, les Italiens, vous faites des déficits ». Mais comme il n'y a pas de sanctions, en fait, il n'y a jamais eu de sanctions monétaires, théoriquement, au départ, on avait dit les pays qui font trop de déficits, ils vont être obligés d'être à l'amende. Et là, évidemment, on a abandonné cette idée et donc on peut continuer à faire notre petit déficit. Mais à un moment donné, il y a le risque qui existe dans certains pays, qu'on a vu par exemple pour la Grèce ou l'Irlande ou le Portugal il y a une dizaine d'années, c'est que les marchés financiers disent je veux plus trop prêter à cet emprunteur qui accumule les déficits parce qu'il va avoir du mal à rembourser. Et là, ça devient assez grave.
Gérard-Marie Henry, une dernière question avant de conclure. Comment on explique que selon les différents organismes, les différentes institutions, il y ait des disparités dans les prévisions de croissance? Par exemple, là, pour la France, elle a annoncé qu'elle passait de 1,4 à 1%. Ça, c'est Bruno Le Maire qui l'annonce. Mais l'économie, la Commission européenne, par exemple, elle abaisse ses prévisions. Elle passe à 0,9 contre 1,2. Donc, ça fait un petit écart de 0,1% quand même. Et puis, on a également l'OCDE qui, elle, parle de 0,6%. Donc, on voit qu'on est sur des chiffres, finalement, un petit peu disparates quand même. Pourquoi cet écart selon les organismes?
C'est-à-dire, le gouvernement français a intérêt à ne pas montrer que ça ralentit trop. Donc, il met 1%. La Commission européenne qui s'occupe aussi du gouvernement français n'a pas intérêt à dire que ça diminue trop, donc elle dit 0,9. Par contre, l'OCDE, qui est un organisme indépendant, les économistes de l'OCDE sont sérieux, donne un chiffre qui est plus bas, 0,6, et c'est celui auquel je crois, enfin malheureusement, c'est ce dernier chiffre assez mauvais qui va sans doute l'emporter, parce que les autres annonces sont des annonces un petit peu politiques, où on ne veut pas fâcher le gouvernement français, le gouvernement français ne veut pas faire peur aux citoyens, donc tout le monde complote pour que les chiffres soient un peu plus élevés que ce qu'ils vont être. L'OCDE dit, mais comme personne ne va regarder sur le site de l'OCDE, personne ne connaît l'organisme, c'est pas très grave, mais le CDE donne un chiffre qui est vraiment pas très bon, 0,6% seulement.
Ça, c'était pour les prévisions de la croissance française en 2024. Pour savoir comment ça se passe aux USA, il y avait une de très belles paroles d'experts cette semaine dans le journal, la presse quotidienne régionale L'Union, notamment, pour ne pas les citer. Et puis, plus d'informations, on peut passer par votre blog aussi, Gérard-Marie.
Oui, on peut aller voir 2-3 trucs sur mon blog, mais bon, c'est un peu rasoir, hein. C'est toujours assez compliqué, les choses. Donc, c'est pas mal nos petites chroniques sur RCF, parce qu'en quelques minutes, grâce aux questions d'Alexis, on arrive à faire le tour d'un sujet un petit peu aride. C'est pas mal.
Que de compliments, on espère vous retrouver prochainement, Gérard-Marie Henry, pendant les vacances, vous serez fidèle au poste. Et
oui.
Puis aussi, on est déjà en train de préparer la saison prochaine, vous regarderez votre boîte mail, Fabrice Gironnet attend une réponse.
Ah, d'accord, je vais regarder.
À très bientôt, Gérard-Marie Henry, ne vous inquiétez pas, c'était pour la taquinerie, à bientôt.
Bonne soirée.
Le 18-19 sur RCF.
Direction Corroy-lès-Hermonville avec son maire, Guy Lecomte, qui nous parle, c'est avec Jean-Pierre.
Guy Lecomte, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors c'est l'occasion de découvrir votre commune, monsieur le maire, Corroy-lès-Hermonville. Combien d'habitants aujourd'hui dans votre village?
Alors c'est tout neuf, hein. Le recensement a été terminé ce matin. Donc on est 538 si je me souviens bien. C'est tout neuf, alors une commune dynamique puisqu'on a eu 32 installations dans des maisons neuves au cours de l'année 2023. Et puis, voilà.
Ah, c'est exceptionnel.
Exceptionnel.
Alors justement, Guy Lecomte, pour situer, parce qu'on a aussi des auditeurs dans les Ardennes, bon, on connaît aussi Hermonville, mais Corroy-lès-Hermonville, combien de kilomètres de Reims à peu près?
Du centre de Reims, on est à 15 kilomètres et on y va directement sans traverser aucun village.
Et donc, on met un petit quart d'heure, enfin.
On met un petit quart d'heure pour aller à l'entrée de Reims. Alors, ça dépend des bouchons, hein, bien sûr.
Alors ça, c'est, je vous interromps, Guy Lecomte, mais ça doit plaire à un certain nombre d'habitants aujourd'hui, parce que c'est quand même des habitations, ceux qui viennent, enfin, ils peuvent être en location, mais ils peuvent être aussi achetés. C'est sans doute un petit peu moins cher, et puis surtout, on a vécu le Covid, on sait bien quand même l'intérêt d'avoir un petit jardin, d'avoir un petit espace autour de soi plutôt que d'être dans un appartement. Ça doit certainement aussi jouer, non?
Ah ben depuis le Covid, il y a eu à peu près 40 habitations dans des lotissements qui ont été construits et qui sont pas tout à fait tous occupés parce que tout s'est pas terminé, peut-être mal terminé pour certains avec quelques sociétés qui ont déposé le bilan, ce qui est jamais évident, quelques problèmes financiers pour certains. Mais sinon, c'est vrai que le Covid doit aider. Et puis le prix des terrains qui tourne autour de 120-130 euros du mètre carré, ce qui est très raisonnable pour la région rémoise, a permis aux nouveaux habitants de s'installer à un prix, je pense, raisonnable.
Alors vous-même, Guy Lecomte, vous êtes maire depuis combien de temps? Et avant d'être maire, vous aviez sans doute peut-être été adjoint, vous étiez dans l'équipe municipale. Comment ça s'est exactement passé?
Alors, je suis au conseil municipal depuis 1983, donc 41 années bientôt. Adjoint 6 ans plus tard, donc j'ai fait 2 mandats d'adjoint. et j'en suis à mon quatrième mandat de maire, voilà, de maire depuis 2001.
Alors c'est vrai, là vous pouvez parler en connaissance de cause, il y a beaucoup de jeunes ou de moins jeunes d'ailleurs qui hésitent à se lancer comme maire d'une commune parce qu'on est quand même beaucoup plus qu'on ne le pense de responsabilité. On est sur le terrain, on peut faire des reproches au maire, en tout cas, ou des encouragements, mais en tout cas, on le voit, le maire. Et ça, effectivement, ça prend plus de temps qu'on ne le pense.
Oui, c'est un travail à presque temps complet, parce qu'en plus, je suis au bureau du Grand Reims, donc quelques réunions supplémentaires. Puis comme je suis courageux ou téméraire, je suis au conseil d'orientation du Grand Reims en eau, assainissement, en voirie, en ressources, donc ce qui occupe un peu. Et aussi, ça permet d'être au courant de pas mal de choses.
Mais au fond, quand on y réfléchit, et vous y réfléchissez sans doute, Guy Lecomte, le fait dans plusieurs structures comme ça, évidemment, on est occupé, il y a du temps. Mais en même temps, ce qu'il faut remarquer, c'est que ça aide pour la compréhension et pour faire vivre la commune, parce qu'on est au courant de beaucoup de choses. Quand on est au carrefour, on entend les échos ici ou là.
Absolument, c'est, pour moi, c'est indispensable. C'est vrai qu'un maire qui ne peut pas se libérer pour aller à des conseils d'orientation et tout ça, qui n'est qu'au conseil communautaire, c'est un peu compliqué de s'y retrouver dans les méandres de l'administration de la communauté urbaine du Grand Reims. Mais bien qu'un coup de téléphone et puis on peut avoir les aides voulues de la communauté urbaine.
Alors Guy Lecomte, aujourd'hui en 2024, est-ce que vous avez des projets? Est-ce que dans la commune il y a des choses en cours qui ont déjà lieu et qui se poursuivent? Est-ce que d'autres vont être mis sur les rails?
Déjà un gros projet obligé parce que notre église était en train de se détériorer. Donc on en est à la dernière tranche de remise en état de l'église qui date du XIIe siècle, qui est classée sur la même liste que Notre-Dame de Reims. Donc vous voyez, une église assez ancienne et puis des travaux qui n'ont pas été réalisés depuis 1925, un peu de désordre sur les toitures, donc on va avoir injecté presque 1 200 000 euros sur notre église. Voilà le grand projet du mandat avec la réfection d'une salle associative. On va avoir remis aussi sur le tapis pas loin de 700 000 euros. Alors ceci dit, bien aidé hein, par l'État, la région, le département, la DRAC pour l'Église, la Fondation du patrimoine pour l'Église. Alors ceci pour notre Église, s'il y a des sponsors qui veulent encore nous aider, ça serait très intéressant d'avoir un peu leur aide. En passant par la Fondation du patrimoine, quelques mécènes seraient les bienvenus. Et quand vous avez un petit budget de 250 000 euros de
bah, bien sûr.
Et que vous mettez en 2023 1 109 000 euros de dépenses d'investissement, vous comprenez que derrière, il y a des emprunts.
Oui, absolument. Eh ben, écoutez, on lance l'appel. Je ne sais pas si on aura des échos, mais en tout cas, vraiment. Et puis en plus, ça fait partie de l'identité d'un pays, ça fait partie du patrimoine, même si les églises ne sont plus remplies comme autrefois. Des monuments de cette envergure, avec leur histoire, c'est quand même pour le patrimoine. Pour des gens aussi qui connaissent la commune et qui veulent revenir dans leur église, il y a aussi tout ça. C'est quand même très important. Alors les sponsors, hein, il suffit de joindre la mairie de Corroy-lès-Hermonville, de joindre Guy Lecomte. Il est là, il vous attend avec sa tirelire parce qu'il se dit « Allez, faites un effort, on réhabilite le patrimoine, on aimerait bien quand même avoir une petite aide. » C'est ça, Guy Lecomte.
Absolument. Puis avec la Fondation du patrimoine, vous avez un abattement de 66% sur vos impôts. Donc c'est pas négligeable non plus. Quand vous donnez 100, vous ne donnez en réalité que 34 euros. Quoi. Bon. Voilà.
Alors avis aux amateurs, avis à ceux qui veulent aider les communes, et Dieu sait si elles sont importantes. On peut dire aussi que, bon, est-ce que au niveau de l'embellissement, tout ça, vous avez des choses en cours? Parce que bon, c'est vrai, vous avez des nouveaux venus, mais les gens, ils sont beaucoup plus attachés, peut-être qu'il y a quelques années, au cadre de vie. C'est très important.
On a toujours un comité de fleurissement qui est actif, mais qui... Alors, suite au Covid, a perdu pas mal de membres parce que les gens, tout ce qui est associatif, ou au moins à la campagne, je ne sais pas en ville, mais a pris un grand coup derrière la tête suite au Covid, où les gens hésitent peut-être plus à s'engager. Pourquoi, je ne sais pas.
En tout cas, Guy Lecomte, c'est l'occasion de nous quitter, mais provisoirement, parce que je suis sûr que sur l'antenne, vous allez revenir une paire de fois d'ici le mois de juin. On pourrait parler de votre commune. S'il y avait une fête, s'il y avait une manifestation, s'il y avait quelque chose qui concerne Courvoisier et Dermonville, nous, on est dans les starting blocks. Hein. On est prêt, avec vous, Guy Lecomte, d'en parler. Hein.
On a toujours notre brocante le premier dimanche du mois de juin, et puis on a la fête patronale qui est toujours le dimanche qui suit le 15 août. On reste dans les traditions.
Ben c'est bien, c'est bien. On regarde l'avenir, mais on est enraciné dans les traditions. En tout cas, merci infiniment Guy Lecomte, maire de Courroy-lès-Hermonville, d'avoir été avec nous. On vous souhaite une très très bonne journée, et puis à bientôt sur RCF. Au revoir.
Merci beaucoup.
18h30, merci Jean-Pierre, merci évidemment à Guy Lecomte, maire de Courroy-lès-Hermonville. Nous, on lance le journal régional. Et titre de ce jeudi 22 février, ce week-end à l'Épine auront lieu les 24 heures pour prendre soin de son couple par l'association Marie qui guérit les couples découvertes. Plus de deux semaines après la fin des soldes, avec un peu de recul, l'heure est au bilan. Focus de ce que retiennent les commerçants ardennais de cette période.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
On y reviendra lors de la page météo en fin de journal, mais l'actualité qui bouscule un petit peu tout, c'est la météo avec la tempête Louis. Les départements de la Marne et des Ardennes sont actuellement en alerte orange, un phénomène météorologique exceptionnel avec des prévisions de vent violent jusqu'à 110 km/h. L'alerte est programmée jusqu'à au moins cette nuit, au cœur de la nuit, donc forte pluie également attendue sur tout le nord de la Champagne-Ardenne, un phénomène météo qui se renforce de minute en minute et ce qui a notamment poussé la SNCF à suspendre les circulations ferroviaires de certains de ses trains afin de garantir la sécurité des voyageurs et du personnel. Par exemple, sur la ligne Charleville-Mézières-Givet, ça a commencé à partir de 17h. D'autres lignes aussi sont concernées par ces restrictions de train. Dès l'accalmie, les équipes de SNCF Réseau prévoient le passage d'un train de reconnaissance sur les différentes lignes perturbées afin de s'assurer de l'absence d'obstacles sur les voies, et ce, avant toute reprise des circulations. La reprise normale du trafic est espérée pour la fin de soirée, ce jeudi soir. Tout cela dépendra des impacts de la tempête sur les voies. Si vous êtes en voiture également, soyez très prudent, ne prenez votre voiture que si nécessaire. Il est souvent dit que l'amour dure 3 ans, mais avec des efforts, il pourrait durer des décennies. Veiller sur son couple est primordial pour une relation réussie. Pour les époux qui désirent consolider, réparer ou même ressusciter leur amour, l'association Marie qui guérit les couples propose ce week-end une nouvelle session des 24 heures pour prendre soin de son couple que nous présente Xavier Dousseau, bénévole au Sanctuaire de l'Épine en charge du développement des projets.
L'idée est venue en discutant avec le recteur du sanctuaire, dont Erwan Courgibet, et les sœurs de Montmartre, là, qui sont à l'Épine, en constatant que beaucoup de couples, et notamment les couples catholiques, n'étaient pas épargnés par les difficultés ou les problèmes qui peuvent surgir dans la vie d'un couple, que ce soit au début de la constitution du couple ou plus tard dans la durée de vie d'un couple. L'idée est d'offrir, comment dire, de redonner des biscuits et de s'appuyer sur le sacrement de mariage. Et on a contacté les mêmes que ceux qui ont mis en place les accueils Louis et Zélie Martin, qui ont aussi exploré la piste de l'aide aux couples avec des week-ends sur 24 heures. Comment aider les couples à retrouver un nouveau souffle, et puis ceux qui vont bien, parce qu'il y a des couples qui vont bien, heureusement, à renforcer leur unité. Il y a 3 conférences, 2 le samedi, 1 le dimanche, des temps de confession, des temps de prière, et le prédicateur, justement, axe sur l'aide que le sacrement de mariage et l'Église catholique peut apporter aux couples dans leur cheminement.
Des propos recueillis au micro RCF Cœur de Champagne de Christopher Fausten. La session débutera ce samedi à 16h30 au sanctuaire Notre-Dame de l'Épine près de Châlons-en-Champagne. Infos et inscriptions sur le site mariequiguérilescouples.com. La communauté d'agglomération d'Épernay et l'agence de l'eau Seine-Normandie ont signé, c'était mardi, un nouveau contrat eau et climat visant à améliorer la gestion des eaux usées et pluviales. Cette collaboration prévoit un programme d'action de 19,6 millions d'euros de travaux sur 3 ans. Plus de deux semaines après la fin des soldes d'hiver, l'heure est venue de faire les comptes pour les commerçants. Le bilan au niveau national est moyen. Il s'explique par une baisse structurelle de consommation, mais aussi par une météo morose qui joue sur le moral des Français et sur leurs achats, car les besoins changent selon le climat. Un bilan que l'on retrouve au niveau local et qui n'est pas sans conséquences, comme nous l'explique le vice-président de la CCI Marne-Ardenne, Aubin Janteur.
Ça a plusieurs conséquences. Tout dépend un petit peu du modèle de gestion des magasins, mais pour les commerçants indépendants qui achètent leur stock, ça a une conséquence, c'est que ça immobilise de l'argent concrètement, donc le stock reste immobilisé, il est invendu, et donc ça peut avoir des conséquences en termes de trésorerie et dans les cas extrêmes, voire de tenue, de viabilité des entreprises. Ça, on le comprend bien, quand il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'argent. Donc ça, c'est pas quelque chose qui se fait forcément sur une saison, sauf à ce qu'elle a été vraiment mauvaise, mais s'il y a une succession d'accumulation de stock, et d'autre part, en fait, cet effet est renforcé parce que s'il y a du stock, c'est qu'il y a eu moins de chiffre d'affaires. Et la période de solde, elle a une vocation qui est celle que vous dites, qui est de vider les stocks physiquement, mais qui a surtout une vocation économique qui est, même si la marge est réduite, c'est-à-dire que ce sont les seules périodes de l'année où le commerçant est autorisé à vendre à perte, s'il n'y a pas d'argent qui rentre, effectivement, c'est de l'argent en moins pour acheter les stocks des saisons à venir.
Et si les clients ne viennent pas acheter lors des périodes des soldes, l'enjeu crucial est de les faire revenir en magasin tout au long de l'année au bas janteur.
L'enjeu principal, c'est vraiment la fréquentation. Il y a les leviers qui sont à disposition du commerçant, qui sont des leviers de marketing, de faire des offres, de communiquer, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans la presse, etc., ou à la radio. Ce sont des leviers classiques où chacun fait venir ses propres clients chez lui. L'autre enjeu est beaucoup plus macro, c'est le travail avec les collectivités pour travailler sur l'attractivité des centres-villes notamment, qui sont liés à énormément de facteurs. Donc ça peut être l'esthétique, ça peut être la complémentarité de l'offre, l'accessibilité, etc. Donc là, on est sur des sujets qui se travaillent à plusieurs.
Des propos recueillis au micro de RCF France Ardennes, affaire à suivre. Avant de refermer ce journal à 18h37, place à l'avant-dernière météo de Mélissa Tavares. Bonsoir Mélissa.
Bonsoir.
Quel temps dans le ciel en Champagne-Ardenne pour demain, vendredi ?
Vendredi, il y aura quelques petits changements entre le matin et l'après-midi dans certains départements de la Champagne-Ardenne. Le matin, dans les Ardennes, la Marne et l'Aube, le ciel sera assombri dans plusieurs villes comme Charleville-Mézières, Reims et Nogent, mais pas toutes. Toujours dans la Marne à Vitry-François et dans l'Aube à Troyes, quelques éclaircies seront attendues, surtout dans le département de la Haute-Marne, dans l'ensemble de ces communes. Les thermomètres afficheront au minimum 3 degrés et au maximum 6 degrés. L'après-midi, en particulier en Haute-Marne, le ciel sera couvert, tout comme les départements des Ardennes, de la Marne et de l'Aube, où il n'y aura pas de changement. Le mercure grimpera au maximum jusqu'à 10 degrés. Attention, vigilance orange en cours dans les départements de la Marne et des Ardennes, où des rafales de vent violents seront attendues jusqu'à minuit à cause du passage de la tempête Louis. Soyez prudents, quel que soit l'endroit où vous êtes. Demain, nous fêterons les Lazards. Nous vous souhaitons une bonne fête à tous.
Effectivement, on avance une très bonne fête à tous les Lazards. Et puis, comme l'a dit Mélissa, et comme on le répète encore une fois, soyez prudents où que vous soyez. Les circulations de train aussi sont perturbées. Le vent souffle bien. Restez chez vous si vous le pouvez. Ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne continue sur RCF.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Chalon. Charleville-Mézières.
Et vous le savez, sur RCF Reims-Ardennes, pendant ce temps du carême, on vous propose des rencontres chaque jour avec des prêtres religieux et religieuses du diocèse. C'est tous les matins à 7h40. Cette semaine, le père Arnaud Duic de l'espace missionnaire Montagne-Val d'Or était avec nous. Arnaud Duic, bonjour.
Bonjour Alexis.
Merci d'être avec nous pour nous parler de ce temps du carême avec cette question que nos auditeurs ont pris l'habitude d'entendre désormais. Que représente le carême pour vous, Arnaud Duic ?
Pour moi, le carême, c'est à vrai dire un temps de joie fondamentalement parce que c'est l'arrivée du printemps pour moi.
Vous associez le carême à la saison ?
J'associe d'abord le carême à la saison, le printemps qui arrive, la fin de l'hiver, le soleil, les jours qui rallongent. Donc un peu cette idée que la lumière est en train de gagner sur le froid et les ténèbres, quoi.
Comment vivez-vous ce temps du carême, père Arnaud Duic ?
je le vis bon an mal an, bien évidemment chaque année est différente, mais j'essaie que ça soit un moment toujours un peu printanier, c'est-à-dire de renouvellement, de renouveau, un moment où je peux de manière plus intense être attentif plutôt aux rencontres que je fais dans l'année habituellement, mais là d'être un peu plus attentif à la manière dont je rencontre, la manière dont je rencontre les autres et le Seigneur à travers les autres en particulier.
Est-ce que peut-être pendant ce temps du carême, à l'intérieur de l'espace missionnaire Val d'Or, il y a des initiatives qui sont prises pour faire vivre ce temps en communauté ?
Oui, bien sûr. Chaque conseil local d'animation au niveau de chaque paroisse est invité à faire des propositions de rencontres en particulier, de temps de prière aussi. Il y en a une, moi, qui me touche particulièrement. On va vivre une marche de carême entre Bouzy et Ambonnet, donc dans la paroisse de la Grappe et l'Épi. Ça va être un moment où on va vivre la messe un peu sur la route et où on veut que ça soit un moment avec les familles. Il y aura en particulier les enfants du catéchisme, les couples qui se préparent au mariage. Enfin, voilà, une grande diversité de personnes plus ou moins habituées à nos célébrations et à nos manifestations d'église. Et donc, cette grande marche de carême, là, ça va être un moment que j'attends avec impatience.
C'est toute la famille de Dieu presque qui se réunit à cette occasion. Père Arnaud Bic, vous le savez, on pose plusieurs questions à nos invités. Quels sont les efforts, les privations que vous consentez à faire pendant cette période, que ce soit sur le plan personnel ou au sein de votre vie de religieux ?
Ma vie personnelle, c'est ma vie de prêtre, donc les deux sont bien évidemment liés. Je dirais que ce temps, plus que d'être un temps de privation, pour moi, le carême, je le perçoit plutôt comme un temps d'approfondissement. Alors c'est un temps de combat, assurément, parce que je me rends compte, en fait, que je dois faire tel ou tel effort, quoi. Mais j'essaye plus de voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide, et donc de voir comment le Seigneur peut le remplir un peu plus encore, bien évidemment.
Merci, Père Arnaud Bic, de nous avoir éclairé sur la façon dont vous percevez et vivez le carême, et évidemment, comme on le souhaite chaque jour à tous nos auditeurs, mais on en profite que vous soyez là aujourd'hui pour vous le souhaiter personnellement. Un très bon carême, Père Arnaud Bic.
Merci beaucoup, à vous aussi.
Les témoignages sont à retrouver sur RCF France-Ardennes du lundi au vendredi à 7h40. D'autres rubriques autour du carême sont aussi proposées par la rédaction de RCF Cœur de Champagne, où ils vont à la rencontre plutôt là de paroissiens ou de certains de leurs producteurs qui expliquent aussi ce que pour eux représente le carême et comment ils le vivent. 18h42 sur RCF.
Le 18-19 sur RCF.
Journée exceptionnelle ce jeudi 22 février, c'est la journée internationale du scoutisme. À cette occasion, RCF vous propose de partir à la rencontre de jeunes qui ont choisi un engagement bénévole dans l'église ou dans la société. Noéline, cheftaine Jeannette au groupe Chalon des Scouts Unitaires de France, est au micro de Gwendoline Benet et Loïc Marcht.
Bonjour Noéline.
Bonjour.
Est-ce que tu peux, Noéline, te présenter un petit peu ? Je précise, auditeur, je tutoie Noéline parce que, étant moi-même scout, nous avons cette particularité de se tutoyer même si on ne se connaît pas. Voilà, et ça permet de donner du lien. C'est ce qu'on appelle la fraternité scout. Noéline, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton rôle de cheftaine Jeannette ?
Je me suis engagée cette année en tant que cheftaine Jeannette, que c'est ma première année de scoutisme. Il se peut que j'ai quelques lacunes. La spécificité des Jeannettes, c'est que ce sont des petites filles de 8 à 12 ans, donc elles ne seront jamais mélangées avec les garçons. Et elles font partie d'une ronde, donc en l'occurrence la ronde Sainte-Blandine. Et elles sont 23 dans notre groupe, donc c'est un gros groupe, puisque le maximum c'est 24. Et la pédagogie s'inspire de la vie de Jeanne d'Arc, enfant, imaginée à partir des deux livres La Forêt Bleue et Jeannette de Domrémy. Et on se sert de ce cas pour les projeter dans un imaginaire et encourager leur curiosité.
Donc ça veut dire qu'elles vivent en fait avec un thème d'année qui est toujours le même.
Il y a ce thème dans lequel elles vont toujours évoluer et on rajoute un thème à l'année qui varie tous les ans. En l'occurrence, cette année, c'est on parcourt la mer aux côtés de Jeanne de Belleville, qui a réellement existé, qui est une corsaire française, sur les traces du trésor de Magellan.
Concrètement, comment ça se passe, une activité Jeannette ?
Alors déjà, principalement, ça se passe toujours à l'extérieur, donc qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Dans des lieux publics ou privés, on peut faire ça dans un parc, mais aussi chez un particulier, dans son jardin, après avoir demandé au préalable. Durant ces sorties, on commence toujours par un rassemblement et nous confions notre journée au Seigneur. Le dimanche, nous allons à la messe tous ensemble, afin de prier ensemble. Ensuite, il y a toujours un jeu axé sur cet imaginaire qu'on va introduire par un scoop, donc c'est-à-dire une petite scénette pour expliquer quel va être le thème de la journée et le but du jeu. Il y a toujours aussi un thème spirituel que l'on a à l'année. Cette année, c'est les Saintes de France. Donc chaque année, chaque sortie, on leur fait découvrir une nouvelle sainte. Et on fait un petit jeu ensuite à partir de l'histoire de la sainte qu'on leur a lue. Dans nos objectifs d'année, nous avons aussi fixé de les faire chanter. C'est pourquoi ça qu'on a organisé un quart d'heure chant où on leur fait chanter différents chants. Et nous concluons la journée par un rasso avec une prière pour remercier le Seigneur de cette journée.
En quoi les activités des Jeannettes contribuent-elles à leur développement personnel et surtout spirituel ?
Le thème spirituel, comme je viens juste de l'évoquer, qui permet de découvrir différentes saintes et de les guider sur le chemin de la sainteté, notamment parce que cela peut être inspirant pour elles. Nous prions ensemble régulièrement, comme je viens juste de le dire. Par exemple, lorsque nous prenons des repas ensemble, une simple bénédicité avant le repas, une grâce après. Enfin, le carrefour des sentiers qui leur permet de progresser et de les aider à grandir. Donc, c'est des activités spécifiques que l'on fait en fonction de leur progression. On a fleur bleue, donc c'est le tout début. Donc quand elles arrivent, elles vont passer leur fleur bleue. Ensuite la fleur blanche, puis la promesse et enfin la fleur d'or. Chacune de ces fleurs a un objectif différent à faire apprendre aux Jeannettes. Par exemple, à la fleur bleue, on leur apprend à être toujours active et aussi propre. La fleur blanche, elles vont plutôt apprendre à s'intéresser un peu aux autres, mais c'est plutôt vraiment à la fleur d'or que c'est ce qu'elles vont faire, puisqu'elles auront déjà passé à peu près 3 ans dans la ronde, donc elles seront plus rodées. Dans la loi Jeannette, il y a une Jeannette pense toujours aux autres, c'est-à-dire que là, on va commencer à leur donner des responsabilités. Par exemple, elles vont être saisonnières, donc elles seront regroupées en groupes de 6. En général, c'est les groupes pour les tentes. La saisonnière aura la responsabilité d'organiser un peu, par exemple, couchage, etc. Le rôle sera aussi d'intégrer les plus jeunes au groupe.
On va faire un petit lexique pour les non-initiés. Donc la ronde, c'est le groupe, l'unité, au sens propre. La sixaine, c'est l'équipe de 6 Jeannettes, ça ?
Oui.
Tu m'arrêtes si j'ai une bêtise. Hein. Et ensuite, donc les tentes, bah, ça tout le monde connaît, c'est oui. Nous dormons sous tente, même en hiver. Ah, quoique, il me semble que dans la branche Jeannette, vous dormez en intérieur, vous ?
Oui.
Vous avez la chance.
Oui, en fait, on a une période pendant laquelle on n'a pas le droit de dormir en extérieur et où on dort chez un particulier, en général un parent d'une Jeannette.
Noéline, on a fait un petit lexique scout avec justement donc, la ronde qui est l'unité, la sixaine qui est donc l'équipe de Jeannette, qui est confiée à une saisonnière qui est souvent une plus grande, qui en dernière année, qui va prémonter. Il y a des fleurs qui symbolisent un peu leur progression, c'est bien ça ?
Oui.
Et on parlait justement de la micro-société, en le sens où il y a une hiérarchie. Donc comme tu expliquais, donc, dans ton uniforme, tu as des barrettes jaunes qui correspondent à la branche dans laquelle tu sers.
Oui, donc la branche Jeannette et louveteau, c'est la même couleur.
Donc le petit carré qu'on voit sur ta chemise, donc un carré marron, symbolise que tu es assistante, là où les chefs d'unité auront du coup des barrettes pleines, c'est ça ?
Oui.
Et enfin le foulard vert et jaune, symbole du groupe Saint-Georges. Dans le sens où la maîtrise, donc l'équipe des chefs, a chacune un rôle bien précis, c'est ça ? Tu peux nous expliquer le rôle des assistantes par rapport au rôle de la chef d'unité ?
Alors déjà, parler d'une micro-société, oui, dans le sens où il y a une certaine hiérarchie, même si hiérarchie est un mot fort. Donc en fait, il y a bien une cheftaine d'unité qui va être celle qui va prendre les décisions finales et qui va organiser le plus gros des sorties, dans le sens où c'est elle qui va définir la trame, même si elle sait et a le devoir de se reposer sur ses assistantes. C'est aussi elle qui va avoir la responsabilité légale et pénale lors des sorties. Cependant, c'est plutôt une relation amicale que nous entretenons entre toutes les cheftaines dans l'objectif de nous aussi progresser sur le chemin de la sainteté ensemble. Ces cheftaines ont tout un surnom, moi en l'occurrence c'est Mangette. La cheftaine d'unité c'est toujours Guillemette, car c'est dans l'univers dont je vous ai parlé au début, de Jeanne lorsqu'elle était jeune. D'ailleurs Jeannette était son surnom.
Les Jeannettes vous appellent par un surnom, donc c'est Guillemette, Mangette, c'est-à-dire quoi Mangette ?
Vraiment, en fait, c'est chacune a un nom qui correspond à un des personnages de ce livre. Par exemple, il y a la mère, il y a les amis, il y a la voisine, et chaque nom correspond aussi à une fonction particulière. Par exemple, il me semble que c'est Isabellette qui est celle qui va plutôt s'occuper du côté spirituel de l'organisation, et chaque nom a donc plus une signification. Par exemple, Angette, c'est plutôt celle qui s'occupe des jeux, de l'organisation des jeux, de la musique, etc.
Est-ce que tu as suivi des formations spécifiques pour encadrer des Jeannettes ?
Oui, il y en a. On a le CEP1 et le CEP2. Donc, ce sont des camps-écoles préparatoires. Le CEP1 Jeannette, donc, c'est l'équivalent d'un BAFA. Donc, le CEP2 est l'équivalent d'un BAFD. Durant ces camps, on va vivre comme si on était le jeune que l'on va encadrer par la suite. Cependant, personnellement, je n'ai pas passé ce CEP1 ni ce CEP2. Je suis actuellement en train de passer mon BAFA, qui est compatible justement avec les scouts. Et par ailleurs, il est possible aussi de faire valider son stage BAFA par les scouts.
Alors, Noline, on parlait du sens spirituel. Vous avez un aumônier qui vous accompagne. C'est dont Erwan. Quelle est la place de l'aumônier ?
Alors, il n'est pas tout le temps là. En général, il est plutôt là pour les cérémonies des Jeannettes, pour les bénir lors de cette cérémonie. Au camp aussi, il vient nous rendre visite pour animer le côté spirituel. Quand il est là, oui, il joue avec nous et il participe aux activités.
On parlait de la promesse. Donc, la promesse, c'est un peu le symbole de l'engagement, de la loi scout, la loi guide, la loi des Jeannettes et tout. Qu'est-ce qui anime ces jeunes ? le jour et qu'est-ce qui leur pousse à se dire « je vais faire ma promesse ».
Il faut savoir qu'elles ne peuvent pas faire leur promesse avant d'avoir atteint leur fleur bleue. Et cette promesse qu'elles vont faire, c'est une cérémonie simplifiée à leur taille et concrète, car c'est leur premier engagement. Donc elles repasseront leur promesse lorsqu'elles monteront à la compagnie, donc chez les filles de 12 à 16 ans. Elles promettent en effet de faire de leur mieux, d'être fidèles à Dieu, à la France, à leurs parents, à la loi de la ronde et de faire chaque jour plaisir à quelqu'un. Donc par là, on retrouve les principes du scoutisme et aussi les grandes lignes de la loi scout. Ce qui les pousse à s'engager, surtout, c'est souvent le désir de vous aussi de montrer qu'elles ont progressé devant les autres et la fierté de pouvoir enfin saluer comme les grands. Donc il y a aussi un petit côté de mimétisme.
Noéline, donc c'est ta première HF10, donc tu es encore au tout début et bravo pour cet engagement. Toi, quelle est ta, entre guillemets, ta plus belle expérience depuis que tu as commencé ce service ?
Étant donné que ça fait vraiment pas très longtemps, j'ai été surprise de voir à quel point des Jeannettes peuvent grandir en aussi peu de temps et progresser. Des Jeannettes que je ne voyais pas forcément vraiment prendre des responsabilités, on finit par commencer à en prendre en très peu de temps et c'est vraiment gratifiant pour nous aussi de voir que les Jeannettes du coup sont capables d'évoluer, de prendre leurs responsabilités, de prendre soin des autres aussi rapidement.
Merci Noéline. On te souhaite une belle année scout, ainsi qu'à la ronde du groupe Saint-Georges.
Merci Noéline.
Et puis un grand merci également à Gwendoline et Loïc qui étaient là pour interviewer Noéline.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
18h51 sur RCF, c'est du direct et la tempête Louine fait des siennes. La RD 1044 est coupée entre Laon et Reims après la chute d'un arbre. Donc faites vraiment très attention si vous êtes actuellement sur la route. Nous, on prend la direction de Reims avec le directeur du lycée Saint-Jean 23 qui est avec nous en studio ce soir. Marc Besancenet est au micro de Jean-Pierre.
Marc Besancenet, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Merci d'être avec nous. Alors vous, c'est bien sûr le lycée Jean 23, inutile de le présenter. Beaucoup d'auditrices, d'auditeurs le connaissent à Reims, mais aussi dans les Ardennes évidemment. Alors on va faire le point un petit peu sur ce que fait actuellement votre établissement, bien connu ici dans notre diocèse. Mais alors il y a une opération dont vous nous aviez parlé, et on en a sur le suivi. C'est une opération baptisée Kilimandjaro. Est-ce que vous pouvez en deux mots rappeler en quoi elle consiste?
Oui, effectivement, Jean 23, c'est une belle maison. Et il s'y vit plein de choses. Et une des choses qui va se vivre tout particulièrement dans quelques mois, c'est un projet un peu fou qu'on a créé, qu'on a monté, qui s'intitule « On a tous une montagne à gravir ». Et effectivement, on se reconnaît tous dans ce titre, on a tous une montagne à gravir. Et l'idée, pour rappel, en fait, c'est de faire atteindre le sommet de ce sommet mythique qu'est le Kilimandjaro.
Combien de mètres? Une question de géographie.
5895 mètres.
C'est quand même, c'est pas rien.
On parle presque d'un 6000 mètres, là, effectivement.
C'est pas la montagne de Reims, hein.
Un peu plus haut, mais nous nous entraînons dans la montagne de Reims.
Et alors, vous aviez comme objectif, Marc, je vous ai interrompu, mais de permettre à une personne qui souffre d'un handicap d'atteindre le sommet.
Oui, effectivement, c'est une étudiante, une lycéenne du lycée Lise, qui est porteuse d'handicap, qui a effectivement une ablation d'une jambe quelques mois après sa naissance. En fait, l'idée, c'est de montrer que tout est possible en atteignant ce sommet mythique en marchant. C'est elle qui va atteindre le sommet, accompagnée par une équipe de jeunes.
Alors, une équipe de jeunes du lycée Jean 23, combien sont-ils? Et ils vont accompagner cette personne pour monter à 5800 mètres.
C'est ça. Donc en fait, il y a 6 jeunes qui monteront en haut du Kilimandjaro cet été. Le départ est fixé au mois de juillet. Et puis, régulièrement, il y a des entraînements qui permettent de mettre en condition. Les jeunes ont un plan d'entraînement hebdomadaire. Et ça va être une vraie, vraie belle aventure. Oui.
Vous avancez dans votre projet. Et en ce moment, vous avez fait même des tests pour le taux d'oxygène. Enfin, c'est assez complexe.
Oui, l'idée, c'était de vérifier qu'il n'y ait pas une incompatibilité à l'altitude, ce qu'on appelle le mal des montagnes. Et donc, tous les jeunes et les encadrants ont passé des tests il y a une dizaine de jours, donc à Paris, ce qu'on appelle les tests d'hypoxie. Et les tests d'hypoxie, en fait, Jean-Pierre, c'est un test à l'effort en simulation de haute montagne.
Et là, c'est OK.
Et là, en fait, plus rien n'empêche désormais ce joli projet, puisque effectivement, la totalité des jeunes et des encadrants ont validé ces tests.
Alors, cette opération, vous qui êtes le directeur du lycée Jean 23, c'est important pour vous parce que le lycée Jean 23 va se faire connaître aussi sur des médias nationaux. France Télévisions va vous suivre.
Alors, c'est surprenant votre remarque parce que Jean-Pierre, en fait, à l'issue d'une première émission que nous avons faite, nous avons été contactés par différents médias. C'est vraiment RCF qui est la base, en fait, qui nous a fait rayonner. Et effectivement, et France Bleu s'en est saisi, France 3 s'en est saisi. Ensuite, effectivement Le Parisien en France, M6, France Télévisions. Donc là actuellement il y a effectivement un projet d'un réalisateur de France Télévisions qui devrait nous suivre sur l'opération et qui devrait faire l'ascension avec nous.
Alors faute de Kilimandjaro, vous avez la montagne de Reims. Et vous vous entraînez dans la montagne de Reims en ce moment.
Oui, dimanche encore, nous étions dans la montagne de Reims avec le groupe de jeunes. Et là, on a fait 400 mètres de dénivelé positif. Mais
vous avez essayé quand même de prendre des chemins pentus. Kilimandjaro, c'est pas rien.
Ça peut faire sourire, mais la montagne de Reims est un terrain de jeu assez intéressant pour cet entraînement. À l'oxygène près et à l'altitude près.
Levée de fonds, ça coûte combien, monsieur le directeur?
Ça, c'est oui, effectivement un vrai sujet, puisqu'effectivement, le budget global de ce projet est aux alentours de 75 000 euros. Donc là, nous commençons seulement vraiment la levée de fonds, puisque je ne pouvais pas la lever avant la certitude, en fait, que plus rien n'empêchait ce projet, donc l'hypoxie. Actuellement, j'ai des promesses de dons à hauteur de 25 000 euros. Donc voilà, on y va. Tout donateur est le bienvenu.
Alors, au lycée Jean 23, vous avez une idée et que vous venez de lancer, c'est un autre sujet, c'est de rassembler les anciens par décade, les anciens élèves de Jean 23. Alors évidemment, nous sommes en 2024. Comment allez-vous construire ce projet? Vous appelez ça le projet décade. De quoi s'agit-il?
Le projet Décade, en fait, est un projet qu'on va aussi lancer au mois de juin. Donc, l'idée, c'est faire venir en 2024 tous les jeunes, et moins jeunes d'ailleurs pour le coup, qui ont eu le bac sur une année 4. En fait, on va créer une notion de famille, famille Jean 23 avec un
alors,
numéro.
Alors, il va y avoir la famille des 4, c'est-à-dire 2024, c'est celui d'aujourd'hui. Vous appelez les gens de 2014, de 2004, de 1994, 1984, 74, 1944. Vous pouvez remonter.
Le lycée existe depuis une centaine d'années, 98 ans, nous fêterons bientôt nos 100 ans. L'idée, c'est effectivement chercher des jeunes qui ont eu le bac et des moins jeunes, il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans.
Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée, Marc? Parce qu'au fond.
Alors, l'idée derrière, bon, déjà, c'est faire revenir effectivement voilà ces anciens, parce que on est attaché viscéralement à Jean 23, on ne sort pas indemne de Jean 23. Jean-Pierre, il se vit des choses à Jean 23 qui ne se vivent pas ailleurs. Chaque établissement a sa spécificité, il fait vraiment des belles choses, hein, c'est une vraie belle place au niveau de l'enseignement catholique, mais il y a quand même une marque Jean 23. Et là, l'idée derrière, c'est créer une amicale des anciens au service du jeune sortant. C'est-à-dire qu'un jeune qui sortira en famille 5 ou famille 4 par exemple, ben cette famille 4 va être à son service pour l'aider à trouver des stages et favoriser l'emploi.
Ce qu'il y a d'original, c'est que vous n'appelez pas tous les anciens d'un coup, mais vous appelez tous les anciens qui ont eu le bac en année 4. C'est la famille numéro 4. C'est un peu le jeu des 9 familles, parce que vous allez avoir de 0 à 9, c'est-à-dire il y a 10 nombres, hein, de 10 0 nombres. À 9, vous allez avoir tous les ans.
Oui, tous les ans.
Vous avez des gens qui ont fréquenté Jean 23 en 1964,
oui.
Qui sont à la retraite, d'autres qui sont chefs d'entreprise, et ça peut permettre aussi de trouver du travail et des stages à des jeunes de 2024. C'est ça l'idée?
C'est vraiment ça, c'est vraiment être au service du jeune sortant, de sa famille. D'ailleurs, si dans nos auditeurs, et il y en a forcément qui sortent de Jean 23, rapprochez-vous de nous, on met en place actuellement une base de données de tous les anciens, donc vraiment n'hésitez pas, Jean 23, voilà, collecte toutes les infos en ce moment.
Alors, les actions de Jean 23, parce qu'il nous reste 2 minutes à peine, Marc Besancenet, les actions de Jean 23 tout récemment, alors il y a le Club 23. C'est quoi le Club 23?
Le Club 23, c'est le club des jeunes, par les jeunes, pour les jeunes. C'est vraiment une dynamique extraordinaire, en lien souvent avec la pastorale. Mais la pastorale, c'est vraiment le vivre ensemble aussi hein, chez nous. Donc là, typiquement, la semaine dernière, il y avait une opération rose par rapport au 14 février. Et près de 1100 roses ont été distribuées, donc achetées par des jeunes et offertes par des jeunes. Encore un moment magique dans cet établissement. Et puis, nous sommes entrés en carême.
Il y a eu la messe des cendres, probablement.
La messe des cendres qu'on a fait mercredi dernier. La chapelle était pleine, un très joli moment. Et puis, le père Thierry Bettler nous accompagne, puisque nous avons 4 jeunes catéchumènes, là, qui sont rentrés dans la période du scrutin, puisqu'on est vraiment dedans, là. Donc, dimanche soir, il y avait une très belle messe. D'ailleurs, régulièrement, nous animons les messes du dimanche soir à Saint-Jacques, avec une chorale et un groupe instrumental de Jean 23. Un très, très joli moment.
Donc tout cela, ça montre que Jean 23, qui est ouvert sur le monde, qui va aller jusqu'aux cimes avec une montagne à gravir du côté du Kilimandjaro, bien sûr, vit intensément cette période de carême que nous vivons nous aussi avec vous et les auditeurs sur RCF.
Oui, absolument. Voilà, donc à Reims, dans le Grand Reims ou bientôt sur le toit de l'Afrique, nous sommes tous ensemble à vivre ce beau projet.
Merci Marc Besancenet d'avoir été avec nous. Rappelons que vous êtes le directeur du lycée Saint-Jean 23 à Reims et vous revenez quand vous voulez parce qu'il va falloir faire de plus en plus le point sur cette opération Kilimandjaro qui sera particulièrement suivie. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt.
À bientôt, merci.
À bientôt, au revoir.
Et merci à vous également Jean-Pierre. On vous retrouvera demain avec d'autres invités, d'autres témoignages, notamment Mgr Étienne Véteux, évêque auxiliaire du diocèse de Reims et des Ardennes, qui sera aussi présent dans l'émission régionale le 18-19 en Champagne-Ardennes demain soir, mais qui sera surtout l'invité en direct de la rédaction de RCF Reims-Ardennes à partir de 7h. Ça, c'est pour un petit teasing. Vous le savez, le vendredi, on retrouve aussi notamment Jacques Cohen pour sa chronique d'actualité. Il nous parlera notamment de Manouchian qui est entré au Panthéon hier. Voilà pour quelques-unes des actualités et des rendez-vous que l'on pouvait vous donner. C'était Fabrice Gironet qui était à la mise en onde ce soir. Il nous fait un petit coucou. Vous ne l'entendez pas, mais vous allez percevoir sa voix peut-être. Vous l'avez entendu avant le magazine régional. Ça, c'est vrai qu'après, à la fin, il ne parle plus, Fabrice. On lui coupe la parole. Vous le retrouverez peut-être dans les animations ce soir, par contre. Ah, voilà, tout à l'heure à 19h12. Merci beaucoup, Fabrice. Merci, Mélissa.
Merci à toi.
Et puis, on se retrouve demain, 18h10, pour un nouveau magazine régional. Tout de suite, l'actualité nationale prend le relais sur RCF.